devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
h 33 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette émission du mercredi 18 décembre 2024. Alors aujourd'hui à l'actualité des luttes, table ouverte, voilà, c'est l'heure du déjeuner. Et ben pour cela justement, on va parler d'un collectif qui s'est récemment mis en place, qui s'appelle Mise en Place justement, voilà. Et on va en parler avec nos invités, mais je vais leur laisser le soin de se présenter.
Oui, bonjour, c'est Sharaf, membre du collectif Mise en Place. Je suis travailleur dans l'hôtellerie dans Paris. Je suis en intérim. Je suis réceptionniste de nuit et je suis là aujourd'hui pour parler de notre collectif et de notre lutte.
Bonjour, moi c'est Sol. Je fais aussi partie du collectif Mise en Place puisque c'est pour ça qu'on est là ce midi et je travaille dans un café.
Alors pourquoi la création de ce collectif ?
Eh ben, on trouvait que c'était finalement... En fait, c'est même pas un truc global. Je pense que c'est parti de volonté très personnelle. Ou en tout cas, moi, ça faisait depuis que je travaille dans la restauration que je cherchais un endroit où lutter ensemble. Déjà avec des gens qui ont les mêmes enjeux que moi, qui comprennent nos enjeux. Mais aussi, en fait, tout simplement, qui ont les mêmes horaires que moi. Puisque quand on travaille dans l'hôtellerie, la restauration et les cafés, on travaille... le soir, le midi, en fait, spécifiquement sur les horaires, où les autres gens ne travaillent pas. Et du coup, c'était un peu compliqué de rejoindre un collectif de lutte ailleurs. Ce qui s'est passé, en fait, très concrètement pour le collectif Mise en Place, c'est parti d'un tweet, je crois, d'un de nos camarades qui travaille depuis longtemps dans le bar et qui a fait un peu un tweet en disant... Ouais, vous en avez pas marre de nos conditions de travail, quand est-ce qu'on se syndique ? Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens avec qui ça a résonné. Il y a plein de gens qui ont réagi, qui ont partagé ce tweet. Et en voyant qu'en fait, il y avait une vraie demande et beaucoup de gens en fait, qui avaient les mêmes questions, mais qui juste se sentaient tous isolés et n'arrivaient pas à se retrouver les uns les autres dans ces luttes-là, on a proposé, nous, à Paris, une première réunion en juillet. Puis après l'été... On s'est revus assez régulièrement et là, du coup, on fait des réunions régulièrement toutes les 2 semaines, entrecoupées du coup ensuite de nos différents moments de lutte, différentes manifs et différentes actions. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, et depuis combien de temps, toi, tu travailles dans le milieu de la restauration ?
Alors, moi, ça fait très peu de temps. Je travaille depuis 1 an et demi, 2 ans maximum. D'accord. Charaf, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu es dans l'hôtellerie.
Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'hôtellerie. Donc
ah oui.
Ça commence à dater un peu.
Ouais, donc tu as quand même t'as une bonne vue d'ensemble quand même, quoi, du coup.
Après, à vrai dire, moi, je suis dans l'hôtellerie, je suis dans une niche un peu spéciale, je suis en intérim. Du coup, j'ai pas les mêmes... Je suis même pas dans la même convention que mes camarades.
D'accord.
Ah non, donc, mais ça permet quand même de lutter ensemble. Et c'est ça la force de notre collectif, c'est qu'on vient à peu près, genre, chacun d'un domaine différent, d'un milieu différent, et c'est ce qui fait notre force.
Donc en 10 ans, toi aussi, tu as dû voir des choses, comment évolue ce secteur. Alors ça serait bien que tu en parles un tout petit peu, justement.
Moi comment j'ai vécu l'hôtellerie, c'est comme beaucoup de nos camarades. Moi, j'y ai commencé pour payer mes études. Et je suis resté pour l'argent. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un parcours assez courant dans nos métiers. Et oui, en 10 ans, j'ai vu toutes les difficultés et la précarité de ce métier. Donc oui, d'où l'importance de se réunir, de s'organiser pour changer les choses.
Tu parlais d'argent et donc de salaire. Le salaire en moyen, c'est combien à peu près?
Alors ça va vraiment dépendre, ça va dépendre des postes. On va partir de SMIC ou beaucoup moins, puisque on a beaucoup de travailleurs qui sont en temps partiel. Et on va partir sur en hôtellerie, en tout cas moi je vais parler de la réception, on est autour des entre les 1600 et 2000 euros bruts.
Mais c'est ça, enfin c'est ça qui est intéressant, à la fois dans le fait qu'on ait des profils hyper différents avec Charaf et qu'en fait il n'y a pas un profil similaire au collectif, et que du coup c'est hyper difficile pour nous de répondre à cette question de c'est quoi le salaire moyen, parce que d'un statut à un autre, d'un métier à un autre, ça dépend complètement. Et en fait c'est pour ça, enfin la réalité du milieu, elle est très variée, et surtout celle qui est majoritaire, celle des gens qui sont rentrés pour payer leurs études, qui n'ont pas fait ça, qui n'ont pas choisi ça comme une vocation, mais qui sont rentrés dans la restauration, dans le service, parce que faut bien trouver un métier pour payer ses factures, et qui sont en fait les plus nombreux, c'est pas du tout la partie du travail qu'on voit le plus, parce qu'en fait le monde de la cuisine, tout le monde le connaît, tout le monde est déjà allé manger dans un restaurant, tout le monde regarde Top Chef quand ça passe sur M6, et en fait on a une vision du coup du monde de la cuisine qui est très segmentée, du monde de la cuisine, de la restauration en général en fait, et du café aussi, qui est très spécifique et qui est très positionné. Et donc à la fois c'est hyper intéressant, nous ce qu'on veut faire aussi, c'est de justement pouvoir nous unir, parler de nos conditions de travail, voir comment elles sont variées et comment aussi souvent nos droits ne sont pas respectés, et comment on peut faire pour s'organiser pour les faire respecter. Et aussi voir en fait, je suis en train de me perdre dans mon explication, mais à quel point on est, étant donné qu'on travaille tous dans des tout petits cafés, en fait on est tous des tout petits restos ou des hôtels en intérim, et tout ça c'est sans parler de l'immense partie des camarades et des collègues qui sont en fait des travailleurs sans papier et qui tiennent tout le secteur sur leur dos aujourd'hui. Dans cette variété-là, on est tous très isolés, en fait, alors qu'on est très nombreux. Et l'intérêt du collectif, c'était justement de se dire, en fait, on peut se rassembler. Moi, je ne peux pas monter une grève dans mon café parce qu'on est trois salariés. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, si mon café ferme, tout ce qui se passe, c'est que je ne touche pas mon salaire. Ça ne bloque pas quelque chose de plus global. Par contre, si on se met tous en lien, ensuite, il y a des choses qui se passent, quoi. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire.
Ouais. Quels sont un peu les principes du collectif ?
Les principes du collectif. les principes.
Comment vous, vous organisez, enfin voilà, le truc très classique.
Oui, je me demandais si c'était une question en termes de quels sont nos grands principes, nos grandes volontés d'action, ou quels sont nos principes de fonctionnement. Pour l'instant, on est un collectif, on n'est pas un syndicat, même si de fait, on est tous syndiqués au sein du collectif ou en voie de syndication. Je sais pas comment.
Syndicalisation. Hein.
Syndicalisation, voilà. J'imagine. Mais pour l'instant, on fait le choix de rester un collectif, même si on travaille de très près avec la CGT aussi, qui nous accueille et qui nous soutient dans la plupart de nos actions, parce que il y a un vrai enjeu, je pense, de se ressaisir de l'outil syndical, à la fois vraiment pour moi, de faire le lien entre les syndicats tels qu'ils existent aujourd'hui et la réalité des travailleurs. à la fois du côté des travailleurs, parce qu'il y a une méconnaissance, je pense, et dans un secteur où, en plus, c'est beaucoup des gens qui sont précaires, des gens qui sont sans papier, ou des gens qui sont étudiants, qui font ça pour payer leurs études. Et c'est aussi un rapport au travail qui est complètement différent de ce qu'on peut attendre d'une carrière dans la même boîte, dans une grosse entreprise, etc. Et donc, il y a une vision du syndicalisme, soit qui fait peur, soit de quelque chose qui va menacer, qui va nous mettre en mauvaise relation avec notre équipe, avec notre patron aussi, puisqu'on travaille souvent dans des structures où on connaît très bien les patrons et dans lesquels on travaille avec. Ou à l'inverse, une vision du syndicat qui est quelque chose qui est justement qui travaille de concert avec le patron et pas pour nos intérêts à nous, mais pour une espèce d'apaisement global qui ne nous sert pas nous. Et à l'inverse, en fait, on constate en travaillant avec la CGT qu'ils ont du mal vraiment à s'implanter dans nos milieux, pas spécialement dans le milieu de la restauration, mais dans la réalité de nos petits restos, de nos TPE, en fait, de ce qu'on appelle les très petites entreprises. Moins de 11 salariés, mais nous, on est vraiment sur, parfois, c'est 3 salariés.
C'est des micros, même.
C'est des mini-micros, toutes petites entreprises. Et pour l'instant, la CGT ou les autres syndicats, ils ont vraiment du mal à s'implanter là-dedans, parce que ils ont l'expertise de comment on syndique dans un groupe où il y a des conseils, des délégués syndicaux, comment on organise une grève à l'intérieur de ça, comment on met un rapport de force entre travail travailleuses et patrons, mais dans des entreprises plus petites où le patron c'est quelqu'un qu'on croise tous les jours, avec qui peut-être on travaille un jour sur deux, c'est beaucoup plus, enfin c'est, les moyens peuvent pas se mettre de la même manière, où il n'y a pas de CSE, de conseil, j'ai oublié ce que veut dire le S, mais le conseil d'entreprise, quoi, où il y a des délégués syndicaux qui vont représenter les intérêts des salariés, comment on fait pour s'organiser, pour se défendre. Alors qu'il nous semble, enfin nous, on avait ce besoin personnellement de se rassembler, de défendre nos droits, de s'organiser, de lutter ensemble dans nos petites entreprises. Et il nous semble aussi que c'est plutôt un modèle qui tend à s'étendre, parce que là, on parle des très petites entreprises, mais on a aussi tout le cas de l'intérim aussi, des statuts précaires, des extras qui sont spécifiques à notre milieu, mais aussi des auto-entrepreneurs qui existent aujourd'hui en tant que livreur, en tant que VTC, mais aussi en tant que, enfin ça existe aussi dans la restauration, en fait.
On le voit souvent, hein, petite mobilette devant le restaurant.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est plutôt ce vers quoi tend le milieu du travail aujourd'hui, le monde du travail. Et du coup, si on peut nous se saisir de ça pour défendre nos droits et organiser les droits des travailleurs là-dedans, c'est ça qui nous intéresse. C'est un des premiers principes.
Vous aviez déjà une expérience syndicale avant celle-ci?
Alors moi, pas du tout.
D'accord.
C'était ma première réunion de travail. En général, je sais pas pour. Il y avait vraiment dans notre première réunion en juillet, il y avait très peu de personnes syndiquées. Il y avait très peu de personnes qui avaient entendu de syndicats dans leur lieu de travail. On avait même posé la question et la réponse était presque unanime. C'était on m'a jamais parlé de ça. Donc à part dans les grandes structures, les grandes brasseries, les grands hôtels où ils peuvent s'organiser entre eux, où comme Sol disait, où la CGT peut rentrer et créer des structures internes, dans nos milieux isolés, c'est presque impossible.
Alors nous, on a suivi une expérience de lutte dans l'hôtellerie, c'était la grève du l'Ibis Batignolles, une grève victorieuse, ça c'est quand même pas mal. Donc on sent qu'il y a... Il y a une envie de s'organiser, mais avec les difficultés que vous exprimiez. Comment un peu la situation dans le secteur de l'hôtellerie, café-restauration, parce que du coup, je pense que vous êtes en contact aussi avec d'autres cafés, tout ça. Quels sont un peu les retours que vous avez ?
Les retours sur...
C'est d'ailleurs les retours de ce que sur votre initiative ou ce que vous disent les gens sur leurs conditions de travail ?
Ce qu'on a pu constater déjà, mais qu'on savait déjà en réalité, mais qu'on a solidifié en se rencontrant, c'est à quel point, en fait, avant de pouvoir défendre ses droits, il faut les connaître. Et que c'est quelque chose auquel on n'a pas encore accès, surtout quand on travaille dans nos profils, dans des petites entreprises, dans des profils d'extra, de statuts, de contrats un peu précaires, en fait, on ne connaît même pas nos droits. Donc on travaille sous le coup d'une convention collective qui est différente de celle des travailleurs de bureau ou des travailleurs sur d'autres horaires, qui est donc la convention collective de la restauration, du loisir, etc. Qui fait que on comment dire, on n'a jamais lu cette convention la plupart du temps quand on rentre là-dedans. On ne s'est pas renseigné là-dessus. On ne connaît pas nos droits et on ne sait pas les défendre. Par exemple, souvent dans la restauration, on a des contrats qui vont monter au-dessus de 35 heures. C'est vraiment très courant, c'est la majorité. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de cas. On est généralement sur une base plutôt de 39 heures, si ce n'est plus quand on est sur une ouverture de resto, on est vite sur du 40, on a déjà entendu du 50 heures. Et en fait, pour même des gens, des camarades à nous qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans dans le secteur, ne savent pas que les heures au-dessus de 35 heures, ça doit être majoré. Les heures au-dessus de 35 heures, elles sont payées comme des heures supplémentaires. Majoré à 10% puis 20%, enfin je sais plus les quotas, mais on doit être payé plus. Et ça, on peut travailler pendant peut-être toute une vie dans la restauration, dans le café, dans l'hôtellerie, sans le savoir, parce que c'est tellement une norme dans nos pratiques, dans les pratiques de nos patrons, qu'on s'imagine qu'on a toujours fait comme ça, et que comme toujours, tout le monde fait toujours comme ça, on peut pas faire autrement en fait. Et donc on ne s'arme pas pour défendre ce droit-là. Et c'est le cas pour plein de petits détails comme ça. En fait, il y a déjà une grosse différence entre ce que dit la convention collective, quels sont nos droits qui sont déjà en place, et ce que nous, on en connaît, surtout les pratiques qui sont normalisées dans nos milieux, dans nos restos. Et en plus de ça, si on regarde en précision la convention collective, il y a aussi des gros manquements, des droits qui devraient être normaux pour la plupart des travailleurs, d'être payés pour toutes les heures qu'on fait, d'avoir des temps de repos qui sont intouchables, qui permettent d'avoir des vraies pauses dans la semaine, qui ne sont juste pas présents dans la convention collective. Donc il y a un premier axe qui va être de faire connaître nos droits et de les défendre, et ensuite un deuxième axe qui va être en fait de construire une lutte à plus long terme pour améliorer cette convention collective, améliorer nos conditions de travail au global.
C'est presque ça, c'est tout à fait ça. Notre convention collective est déjà pas ouf, en vrai, pour dire les choses comme ça. Et en plus de ça, elle n'est pas respectée. Donc, c'est ça un peu notre but en tant que collectif, c'est de faire connaître notre convention collective, qu'on puisse au moins, pour un début, faire respecter toute cette convention pour qu'à la suite, on puisse l'améliorer et voir ce qu'on peut faire de plus. Mais c'est vrai que si on commence juste sur ce qu'il y a maintenant, le minimum, le minimum n'est pas suffisant.
Donc l'accueil de votre collectif, alors je n'ai pas signalé depuis quand vous êtes créé en fait, on ne l'a pas signalé je crois.
Du coup on disait notre première réunion c'était en juillet, donc c'est en fait à partir à peu près de
2024.
Juste là, c'est vraiment, d'accord, on est tout frais, tout neuf.
D'accord, et donc l'accueil de votre collectif, parce qu'on peut imaginer que vous avez quand même contacté d'autres gens, d'autres personnes qui travaillent dans la restauration, qui est un peu le retour que vous avez justement par rapport à l'accueil que vous avez eu.
Tu veux répondre, Sharaf?
Alors, d'autres gens dans la restauration, l'accueil était en général enthousiaste. On a eu beaucoup de soutien de plusieurs personnes. Il faut savoir que le collectif, au début, s'est créé au niveau national. Le lancement a été au niveau national.
D'accord.
Parce que le premier groupe qui a été créé suite au tweet du camarade, on a créé un groupe au niveau national. Très vite, on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup de moyens pour organiser tout ça. Et on a essayé de s'organiser à notre niveau. Nos premières réunions étaient à Paris, avaient donné plus d'idées à d'autres camarades. Et on a des camarades qui sont organisés maintenant. On a à Rennes, Marseille, Lyon, Mulhouse, qui était déjà en cours d'organisation.
D'accord.
Donc au niveau des travailleurs du secteur, tout le monde était très très content qu'il y ait quelque chose qui s'organise et très enthousiaste de nos actions.
Du national au local, quoi.
Voilà. Tout à fait. C'est un peu un double mouvement, on dirait pas. Le but c'est pas de structurer une tête nationale qui dirigerait tous les endroits locaux, mais en tout cas il y a eu une impulsion globalement où il y a eu une espèce de rencontre à la fois de gens qui étaient déjà organisés dans leur localité, typiquement à Mulhouse ou à Nantes, il y avait déjà des collectifs syndicaux dans la restauration et dans nos profils de TPE de petites entreprises qui existaient déjà, et donc ça leur a permis de se faire connaître et de se mettre en lien avec nous pour qu'on puisse établir un espèce de maillage et s'inspirer les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Et à Paris, ça n'existait pas encore, donc nous, d'accord, on s'est monté. Et effectivement, ça a impulsé aussi des trucs à Rennes, exactement comme tu disais, à Marseille, à Lyon. Donc on a eu plutôt des bons retours. côté des camarades du milieu syndical, on est aussi très bien accueillis. Comme on disait, on travaille beaucoup avec la CGT parce que c'est eux qui ont directement...
Qui impulsent un peu plus, quoi.
Qui nous ont aidés, qui ont directement pris contact avec nous en disant, bah, trop bien, nous, on veut vous aider à monter ça, on veut vous accueillir, donc ils nous prêtent des locaux pour toutes nos réunions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce dialogue-là, de prendre tout ce qu'il y a à prendre, de voir toute leur expertise, à la fois sur des questions très administratives, très légales de conventions collectives, mais aussi sur comment on organise une lutte, comment on organise une grève, comment on tracte, toutes ces actions-là dans lesquelles ils ont une expérience totale. Et en même temps, on est aussi reçu par des gens qui ont du coup parfois 25 années de syndicalisme derrière eux et qui nous disent, en fait, syndiquer dans les toutes petites structures, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Vous n'y arriverez pas, rejoignez des unions locales ou autres. Et nous, pour l'instant, on a envie de faire le pari qu'on peut le faire et qu'en tout cas, le temps que ça existera, ça aura de l'intérêt. Et on commence déjà à mener des missions d'aide, ce qu'on appelle de l'aide individuelle, c'est-à-dire des gens qui nous contactent, qui n'ont pas soit les contacts, soit l'aplomb, on va dire, pour se présenter directement à la CGT et dire « j'ai des problèmes », mais qui savent que parce qu'ils nous connaissent, parce qu'on connaît leur situation, qui peuvent nous contacter et dire nous on a un problème, moi j'ai un problème avec ma patronne qui m'a pas payé mes heures, comment je fais, et donc on s'organise et on l'aide là-dedans, quoi.
Alors tu parlais de la convention collective, qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans cette convention collective pour qu'elle soit un peu plus efficiente?
Alors t'as pas de chance, t'as pas les plus grands experts de la convention collective et du milieu autour de la table, hein.
Mais en gros, quoi, sans rentrer dans les détails, parce que c'est les principaux concernés aussi qui savent ce qu'il faut changer ou pas et ce qui ne va pas, quoi.
Non, clairement, mais c'est un de nos gros sujets de discussion, et c'est des trucs qui se montent comme on est à la fois en train de créer un collectif et en train de créer des revendications et en train de créer des actions. Enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent à la fois. Mais on a fait une petite liste déjà sur notre petit tract qui est par exemple l'indemnité de transport pour les travailleuses de nuit, puisque le soir, si tu travailles notamment dans les bars, dans les boîtes de nuit, tu finis après la fin des métros, en fait. Ouais. Donc c'est soit rentrer ou à pied ou en vélo, soit parfois prendre des taxis, des Uber, et c'est nécessaire que ça soit compté comme
Et des c'est pour frais ta poche, quoi.
C'est ça, exactement, alors que c'est nécessaire que ça soit compté comme des frais de travail. Il y a la question de la coupure qui est très spécifique au milieu de la restauration, qui est le fait de faire un service le midi, un service le soir, et en fait t'as pas le temps de rentrer chez toi entre tes deux services, et donc t'as ce qu'on appelle une coupure, à savoir 3-4 heures dans lesquelles tu ne travailles pas, donc dans lesquelles tu n'es pas payé, sauf qu'en fait tu ne peux pas rentrer chez toi, tu dois rester sur ton lieu de travail, et pour l'instant ça n'est juste pas pris en compte par nos fonctionnements, par notre convention collective. Majorer systématiquement le fait de travailler la nuit, quand bien même quelque chose qui est spécifique à notre métier, en fait, qu'on ait choisi ou pas de travailler dans le milieu de la nuit, c'est plus fatigant, c'est des enjeux qui sont spécifiques.
Bien sûr.
Et donc ça devrait être majoré en général. Et puis après, il y a des demandes qui sont plus globales, qui sont notamment l'augmentation du salaire minimum, mais qui n'est pas, on n'est pas en train de dire on veut augmenter le salaire minimum juste pour les travailleurs de la restauration parce qu'on est mieux que les autres, ouais. Mais juste parce qu'on estime que en fait le salaire minimum en général dans tous les milieux, et il faut l'augmenter, et que nous on lutte dans ce milieu là pour faire exemple ensuite dans le reste du milieu du travail.
Et on part vraiment au plus bas, parce que le SMIC, c'est vraiment aujourd'hui dans les grandes villes comme à Paris, est-ce qu'on peut vivre avec
le
SMIC ?
Non, clairement pas, c'est vraiment pas possible. Et effectivement, ce qu'on a mis en tout premier dans notre notre manifeste, c'est la régularisation immédiate de tous nos camarades sans papier. Là aussi, c'est pas une revendication qui se limite aux gens qui travaillent dans la restauration, mais nous, c'est un enjeu dont on a l'impression que c'est hyper important de se saisir, en particulier dans notre milieu, parce que, comme on disait, vraiment, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, ça repose à Paris, je pense que c'est une majorité vraiment de travailleurs qui sont sans papier, en fait, dans les cuisines, dans tout ce qui n'est pas, en fait, au contact des clients, dans les cuisines, dans la plonge, dans l'hôtellerie, dans la sécurité, l'accueil. On est vraiment sur des travailleurs sans papier, et du coup, sans papier, ça veut dire sans droit du travail, sans défense de ses droits, en fait, sans capacité de se défendre contre son patron quand il fait des contrats abusifs, parce que c'est que par là qu'on peut gagner son argent.
D'ailleurs, D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un réseau de restauration assez connu sur Paris qui s'appelle Chez Papa, où il y avait eu une lutte assez importante, justement, de travailleurs sans papier, puisque, comme tu le dis, c'est ces travailleurs-là qui font tourner la restauration. On le voit, d'ailleurs. Hein. Donc, on sent qu'il y a des envies aussi de ces luttes-là. Alors, je rappelle quand même que lors de la sortie du confinement, ben, c'est les collectifs de sans-papiers qui sont sortis en premier, hein, quand même, voilà, qui ont brisé un peu cet isolement. Alors justement, ce tract, parce qu'il y a un recto, il y a un verso aussi sur ce tract. Et il se fait, on aura un petit son tout à l'heure, après la pause musicale, justement, sur cette action qui a eu lieu le 27 novembre. Alors, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce tract, justement, que vous aviez fait ?
Tu parles du verso, c'est ça ?
Voilà.
Tout à fait. Bah, c'est le complémentaire de ta question de tout à l'heure, de comment on a été reçu par le milieu de la restauration, puisque là, on parlait du côté des travailleurs et des syndicalistes, mais le milieu de la restauration, il est aussi rempli de chefs et de patrons de restaurants, que ça soit côté cuisine ou côté administratif. Il y a différents types de supérieurs hiérarchiques, on va dire. Et une des actions qu'on a fait récemment et par laquelle vous nous avez aussi rencontrés, c'est qu'on s'est pointé à un rassemblement un collectif qui s'appelle Restore. Le collectif Restore, qui est un collectif qui a été monté par des grands noms de la restauration, des associations aussi, mais qui ont pris comme porte-parole des chefs renommés et assez médiatisés, ou des journalistes spécialisés dans la gastronomie pour...
humaniser, on va dire.
Humaniser, hein. C'était ça, c'était pour rendre la restauration plus bienveillante. C'est parti d'une association... Bah,
je crois qu'il y avait même renouvelable dedans.
Je pense qu'il y a aussi la question. C'est vraiment, c'est bienveillant.
Nous, on les appelle les patrons, mais eux, ils ne veulent pas de ce nom-là.
Ils
s'appellent les chefs, les détenteurs d'entreprises, tout sauf des patrons. Nous, on a très bien compris que c'était des patrons, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, des restaurants. C'est des patrons qui ont des salariés.
Alors, ce que je vous propose, justement, on va continuer à faire le lien. On va faire une pause musicale et ensuite, on aura le reportage que nous avons fait. On était dans les beaux quartiers, en plus, à la Madeleine. Alors là, vous avez de la chance, auditeur, auditrice. Hein. Pause musicale.
Quoi que je dise, quoi que je fasse, quelles que soient les fringues que je porte, je vois les mamies qui s'inquiètent à chaque fois que je leur tiens la porte.
Quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que ce soit le degré d'effort, je vois les droitards qui me regardent comme si je méritais la mort.
Et quand j'essaye de m'intégrer,
y'a marqué sur leur gueule: t'es pas comme nous, t'es qu'une merde, tu sais pas te lever le matin même quand tu te laves, tu bues et en plus tu ressembles à rien. T'es pas comme nous, t'es qu'une merde, fais plutôt comme ton cousin, lui au moins il a réussi, il a un or. Villeurbanne,
à Villeurbanne, banne, banne.
Quoi que je dise, quoi que je fasse, je peux deviner dans leurs yeux une lueur qui veut dire crèver loin de moi, s'il te plaît, c'est mieux.
Mes passions, ouais. Ma tronche, comment fonctionne mon cerveau, même qui sait que j'aime. Au fond, j'ai l'impression que ça les emmerde.
Et quand j'essaye de m'intégrer,
y'a marqué sur leur gueule: t'es pas comme nous, t'es qu'une merde, tu sais pas te lever le matin même quand tu te laves, tu bues et en plus tu ressembles à rien. T'es pas comme nous, t'es qu'une merde, fais plutôt comme ton cousin, lui au moins il a réussi, il a un or auto. À Villeurbanne. T'es pas comme nous, t'es qu'une merde, fais plutôt comme ton cousin, lui au moins il a réussi, il a...
Anne.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM jusqu'à 13h30. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons de la création du collectif Mise en Place qui est dans le secteur de l'hôtellerie, café et restauration. Ben là, on va justement se déplacer. Là, du 19e, on va aller dans le 8e arrondissement, puisque voilà, le 27 novembre, il y a eu une action qui a été lancée justement en direction des grands patrons de la restauration. Et on va entendre une interview d'un des membres du collectif qui va parler un petit peu de cette initiative. Ce 27 novembre 2024, on est sorti du 19e arrondissement. Voilà, on est dans les beaux quartiers de Paris, puisqu'on est place de la Madeleine et plus précisément près de l'église de la Madeleine, puisque dans les sous-sols se trament des petites choses, puisqu'il y a un lieu qui s'inaugure, je crois, ce soir, qui s'appelle Restore. Alors, c'est pas la cantine des Pyrénées, hein, c'est un autre restaurant très chic. Hein. Et donc, ce soir, c'est l'inauguration. Et puis, il y a un collectif qui s'est réuni, qui distribue des tracts devant, l'entrée. Et donc, on va en parler avec une des personnes qui est là, qui nous est dire un petit peu ce qui est en train de se passer.
Bonsoir. Alors, du coup, nous sommes le collectif MEP Mise en Place. On est un collectif de travailleurs de la restauration nouvellement créé. Et on entend représenter nos camarades de restauration, de toute la restauration. Ça va de l'hôtellerie à la petite restauration, aux femmes de chambre, à la restauration rapide. Et ce qu'on veut faire entendre, c'est le point de vue des salariés. Ce qui se passe ce soir, c'est que des associations ont créé un mouvement du nom de Restore qui a pour but de créer, je crois à terme, un label de restauration éthique au sens... au sens salarial, au sens gestion des humains, et qu'ils ont convié donc d'autres associations et plusieurs chefs ambassadeurs, dont certains dont on connaît particulièrement le côté toxique et violent. Et on a décidé d'un petit tractage avec nos revendications et au dos un petit message expliquant que le dialogue social ne peut pas se faire sans les salariés et que les salariés doivent être conviés, que les salariés doivent être au centre des discussions et qu'on ne fait pas de dialogue social entre décideurs, entre chefs, entre patrons, entre associations, voilà, et que sans convier de syndicats, j'entends représentatifs, parce qu'ils ont convié un syndicat du nom de Printemps écologique, je crois, qui doit être représentatif probablement sur des cadres parisiens, si je m'abuse à vérifier, mais bon, donc nous, Boulou, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la CGT soit conviée, on veut que la CFDT, la CFDT, hein, pourtant c'est pas les plus combatifs et c'est pas les plus violents dans le combat social, mais c'est pas grave, nous ce qu'on veut, c'est des vrais syndicats conviés et qui puissent expliquer ce qui se passe vraiment dans la restauration, et pas la restauration de Manon Fleury, que je respecte énormément d'ailleurs dans
c'est
sa démarche.
C'est qui Manon Fleury ?
Manon Fleury, c'est une chef qui a décidé de créer une brigade 100% féminine. Et qui a dit merde, on lui a dit mais c'est de la discrimination, elle a dit oui, et puis passer à autre chose quoi. Donc je respecte totalement cette démarche. Cependant, c'est la démarche des 1%. C'est de la très belle restauration qui vise des très beaux profils avec des jolis salaires. Donc c'est pas la restauration parisienne, c'est pas les centaines de milliers de travailleurs d'Île-de-France, c'est pas les millions de travailleurs de restauration et d'hôtellerie. D'ailleurs, en Île-de-France, c'est 40 à 50% d'étrangers dans la restauration. Donc, nous, notre idée, et notre combat, c'est d'abord de parler de ces gens-là, c'est-à-dire les sans-papiers, les étrangers en situation compliquée, les gens en situation précaire, les contrats, enfin, les gens pas déclarés. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que ces gens qui se réunissent aujourd'hui pour discuter de ces choses discutent de vraies choses. Voilà, moi j'aurais aimé dire qu'on met les sans-papiers au milieu, qu'on est là pour parler du travail au black, qu'on est là pour mettre les vraies questions au centre et que peut-être après on se décernera des labels éthiques et on se brossera dans le sens du poil et on fera un peu de social washing. Il n'y a pas de souci, j'adore, c'est très bien. Mais d'abord, adressons les vrais sujets et allons quelque part ensemble.
Parce que quand on voit un Thierry Marx à la télé, il a l'air comme ça, très ouvert, il faut que tout le monde puisse manger équilibré, tout ça. Et puis en même temps, bon, je crois qu'il a un hôtel à Paris qui s'appelle le Peninsula, je crois. Hein. C'est un hôtel grand luxe quand même, hein, tout me semble-t-il. Et donc il y a toute cette ambiguïté aussi de ces personnages qui, quand on les entend, ils veulent faire un peu le bien, quoi.
Écoutez, Thierry Marx, il veut faire un peu le bien. Thierry Marx a surtout besoin de pouvoir exploiter ses travailleurs tranquillement, c'est-à-dire dans la légalité. Il voit une main-d'œuvre qui est pour lui une main-d'œuvre incroyable, hein, qui va être des sans-papiers, des gens qui ont besoin de travail et qui va pouvoir exploiter à souhait. Et Thierry Marx aimerait pouvoir le faire tranquillement, en fait. Et Thierry Marx, si on entend son dernier discours, je crois que c'était chez RMC ou RTL, je crois, si je ne me trompe, qu'il dit sans les 20% de travailleurs étrangers, nous fermons un quart des établissements mathématiques. Et qui dit d'ailleurs, ça n'empêche pas de parler de l'immigration, de fermer les frontières et de parler de délinquance. Et en fait, il a un discours extrêmement réac, extrêmement violent, extrêmement de droite, voire d'extrême droite, tout en disant par contre, j'ai quand même besoin de 20% de ces Noirs et Arabes et Pakistanais et du Bangladesh. Ouais. Et j'ai besoin de ces gars-là. Vous me les laissez et puis après, vous faites ce que vous voulez en niveau racisme. Voilà.
Ouais, c'est maintenir l'ambiguïté, quoi.
Voilà. Oh, c'est même plus de l'ambiguïté. Je pense que c'était assez franc. Faut reprendre. Hein. C'est voilà, il le dit vraiment. Il dit bon, il y a une immigration qui m'intéresse, une qui m'intéresse pas. Eux, vous les dégagez et eux, je les exploite. Voilà. Merci. Au revoir. C'est Thierry Marx dans le texte.
Alors là, du coup, ils avaient sorti un peu du personnel puisque là, du coup, un peu panique à bord. Qu'est-ce que ça disait là, les gens qu'ils avaient sortis ? C'est pour ces deux. Vous convaincre d'aller un peu plus loin, puisque ici, quand on distribue des papiers, ça y est, c'est la révolution. Hein.
Écoutez, on avait un tract qui disait que les grands patrons, un tract très, très CGT, très, très à gauche, qui n'a pas plu, ils se sont sentis attaqués. Et c'est intéressant, en fait, de voir la réaction quasi immédiate, viscérale, violente, face à une action syndicale de 5-6 personnes, 3 tracts, qui dénoncent quand même un peu, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Et une réaction très viscérale, très violente. Ils se sont sentis attaqués dans leur personne et dans leur combat. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, c'est crever l'abcès. On peut pas. Ils ont fait un pas, c'est-à-dire on veut travailler avec les syndicats. Mais les syndicats, c'est ça. Les syndicats, c'est le combat. Les syndicats, c'est le rapport de force. Les syndicats, c'est l'action. Et s'ils sont pas capables d'entendre en fait ces méthodes. Mais écoutez, je pense qu'on n'a rien à se dire pour le moment.
Parce que les gens qu'on a vus sortir, ils ont quasiment votre âge, quoi.
Oui, carrément. Ils sont. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'ils ont une vision très idéaliste du dialogue social. Ils pensent qu'en mettant les patrons autour de la table avec des belles idées du genre « il faut remettre de l'humain au centre de notre métier », on va régler un problème de fond qui concerne des centaines de milliers de personnes. Dont ils n'ont pas conscience, en fait. Remettre les patrons des nouveaux restaurants à la mode autour de la table, ça ne va pas régler le problème de la main d'œuvre sans papier.
Et puis, comme on est sous la Madeleine, peut-être que s'ils ne font pas le bien, ils iront se faire pardonner. Peut-être que ça passera.
Mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, de l'absolution, je pense. Ouais. Vraiment, j'y crois profondément. Je pense qu'ils sont sincères. Et je pense que pour certains, c'est une manière de se dire « on a merdé ». Enfin, on a été des merdes. Cherchons. Voilà, on va essayer de se racheter, mais pas à tout prix. C'est-à-dire se racheter, mais quand même pas au prix des profits. Se racheter, mais pas au prix de laisser le narrative au salariat. Parce que si vous regardez bien, on parle beaucoup aujourd'hui de la restauration. On n'entend jamais de salariés de la restauration parler à la radio, dans les journaux. Ça n'arrive pas. C'est Thierry Marx, c'est. Un tel chef à la mode, ou alors tel mec de Top Chef, ou alors tel chef qui a décidé par exemple féminiser sa brigade, Manon Fleury, pour reprendre l'exemple,
ou Hélène Darroze.
Voilà, ou Hélène Darroze. Enfin, voilà, c'est ces gens-là qu'on entend. Et je suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord pour laisser ces gens-là en fait driver. C'est pas eux de driver, c'est au salariat de driver. Et d'expliquer ce qu'on veut, comment on le veut, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Le fait est, et ça je pense qu'ils ont du mal à l'entendre, on n'arrive plus à recruter. Et pourtant, leur logiciel est incapable de s'adapter. Alors qu'on est face à une pénurie comme on n'a jamais vu. On parle de 2 à 300 000 postes non pourvus en restauration et qui ne seront pas pourvus dans les années à venir. Et on parle de postes à la fois à responsabilité et à la fois des postes qualifiés, c'est-à-dire formation. Donc même si on trouvait 300 000 personnes demain, c'est du poste pour poste et c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un vrai problème de fond à adresser dans un pays, dans une ville dont l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie est monstrueuse et sur lequel repose littéralement l'économie parisienne.
Et beaucoup de précarité aussi, hein, on le voit bien sur pas mal de secteurs, puisque nous on a suivi aussi des grèves dans l'hôtellerie, hein, notamment. On voit bien que c'est un secteur où la précarité sévit énormément, quoi.
C'est un secteur extrêmement précaire, un secteur où pas mal de gens ne sont pas déclarés, du fait qu'il n'y ait pas de papier. Beaucoup de gens, ça se calme un petit peu du fait d'absence de cash, beaucoup moins de cash qui circule, donc beaucoup moins de capacité. On retrouve quand même, vous voyez, un mec qui fait 18 heures, enfin il est déclaré 18 heures, il en est payé 35, il en fait 60. C'est un peu la base dans beaucoup d'endroits. Voilà, donc oui, c'est extrêmement précaire. Et si on ne veut pas adresser ce genre de choses, en fait, ça évoluera pas.
Voilà, bien, vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, on est avec Sol et Charaf du collectif Mise en Place qui fonctionne dans le secteur de l'hôtellerie, café et restauration. Alors, un petit peu sur ce qu'on a écouté, quels sont un petit peu qu'est-ce que ça vous a incité selon ce qu'on a écouté là? Retour.
Je pense qu'on a entendu plein de trucs hyper intéressants. Hein. Samy a bien posé les bases. On est tout à fait d'accord. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut rebondir. Je pensais notamment à la question de la violence. Où c'était toi qui posais la question. Effectivement, ça a complètement paniqué l'événement qu'on soit devant à combien on était, une petite dizaine, ouais, pour donner des petits bouts de papier. Quoi. Pour eux, c'était... Donc ça a été vraiment vécu comme une attaque, une trahison. Voilà, on est face à des gens pour qui distribuer des tracts devant la porte d'un événement, c'est une violence incommensurable. Mais l'exploitation de centaines de milliers de travailleurs, non, ça va, quoi.
Ouais.
On est dans un milieu où, effectivement, le syndicalisme, c'est d'une violence innommable, mais par contre... Insulter ses cuisiniers, généralement, c'est de la tradition, c'est un truc qu'on a appris, qui se fait, c'est normal, c'est l'ambiance en cuisine. Mais même au-delà de la question des gens qui sont violents sur leur lieu de travail, du fait qu'effectivement, il y a plein d'endroits, plein de brigades où on vit la violence et ça apparaît assez normalisé. En fait, même au-delà de ça, pour eux, travailler 40 heures, payer 35 et pas pour autant pouvoir payer son loyer à Paris, pas autant pouvoir vivre correctement, c'est pas une violence, quoi. Ça, c'est OK, ça, c'est pas grave.
C'est banal, quoi.
Mais non, puis ça se voit pas, donc c'est moins grave. Mais alors, leur dire à eux que ce sont des patrons, ça, c'est...
Oui, ils étaient un peu vénères quand même. Ils étaient pas très... parce que... Il y a donc des manageuses qui sont sorties, il y a aussi un manager qui est sorti. Donc essayer de discuter, parce que l'idée aussi c'était qu'un des membres du collectif puisse aussi, c'était invité hein, justement à cette inauguration donc sur ce mouvement Restore. Donc ça ouvrait, hein, on va dire que ça inaugurait. Et l'idée c'était qu'un de vos collègues aille manger. Je crois qu'il d'ailleurs il est rentré après.
Il est rentré, tout à fait.
Justement, comment ça s'est passé le retour justement? Est-ce que vous avez
les retours qui nous a fait de tout ça?
Ouais.
Après les échanges qu'on avait eu en amont, les recherches qu'on avait fait en amont et puis ce petit moment de tension devant, on n'attendait pas grand-chose du fait de rentrer dedans et effectivement ça a été tout à fait à l'aune de ce qu'on pensait, à savoir ça a été des grands discours pour vraiment pas dire grand-chose, des chefs qui proposent pour rendre leur cuisine inclusive et bienveillante, de payer des cours de sophrologie et d'ostéopathie, et de payer de l'ostéopathie à leurs travailleurs. Nous, c'est bon, je pense que là, le dialogue social est établi, il n'y a plus rien à faire, quoi. Non, on est allé faire ce qu'il y avait à prendre. Je pense qu'effectivement, ils nous ont reproché de taper sur eux alors qu'eux, ils veulent faire bien, alors qu'eux, ils sont bienveillants. Ils ont beaucoup insisté là-dessus aussi quand ils sont sortis pour nous voir, pour discuter avec nous, sur le fait de nous faire dire en fait, qu'on était d'accord avec eux. Puis ce n'était pas les seuls. Hein. Il y avait aussi plein de journalistes qui ont essayé aussi de nous faire dire ça, qu'en fait, nous, on était d'accord et qu'on voulait la même chose. Et effectivement, en fait, il y a quelque part, oui, nous, on s'est servi de cet événement pour se faire connaître, pour se mettre devant, pour faire un peu du bruit, pour donner des tracts, inviter des gens, se faire un peu connaître. On peut bien vouloir dire, effectivement, ils veulent bien faire les choses, on peut au moins leur donner les bonnes intentions. Après, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Et puis, en fait, on n'est pas si désolé de taper sur les patrons bienveillants, parce qu'en fait, à un moment, ils veulent nous faire oublier qu'il y a une relation de hiérarchie qui est en place, qu'il y a une relation de domination économique, que c'est du patronat. Et en fait, c'est en disant, en faisant des grands discours sur le fait qu'on va être bienveillant et qu'on va rendre la restauration douce et bienveillante, qu'on fait disparaître une espèce de conscience de classe et qu'on fait oublier le fait que, bah non, il y a des salariés, il y a des patrons, il y a des employés et qu'on n'a en fait pas les mêmes intérêts. C'est ça qu'on a constaté dans cet endroit-là, en fait. C'est que quand bien même on avait des grandes idées qui pouvaient se rejoindre, nos intérêts concrets, c'est pas les mêmes parce qu'il y a une partie, parce que nous, on est des employés, des travailleurs et que eux, c'est des patrons.
Ah oui, il faut bien choisir son camp quand même, on sait où on est, quoi.
C'est ça, ils veulent faire un grand camp de la restauration comme une grande famille, mais nous, on aimerait bien que ne pas disparaître là-dedans, quoi, parce que c'est rarement à notre privilège.
Et toi, Sharaf, comment t'as vu un peu ça, du coup?
En fait, on a vu ça, on a compris qu'on avait raison, en fait, parce que le problème, c'est qu'on ne donne jamais la parole aux salariés. Il y a toujours des patrons qui parlent, même vous, quand vous avez posé la question, vous avez posé la question de Thierry Marx. On a eu plusieurs organisations, même de gauche, des collectifs de sans-papiers à qui on a parlé, qui nous avaient dit qu'ils avaient contacté, pour contacter un syndicat de la restauration, ils ont envoyé un mail à Thierry Marx.
D'accord.
Nous, on a un slogan très facile dans notre collectif, c'est moins de Thierry, plus de Marx. Et ça va partir comme ça. Nous, on a très bien compris que les médias, ils donnent trop la parole aux patrons de restaurants. Ouais. Et pas que pendant les périodes de restauration, ils parlent pour parler de restauration, mais tout le temps. Pendant les Gilets jaunes, on a demandé aux patrons de restaurants et de cafés. Quand il y a des catastrophes naturelles à Valence, on a demandé à des patrons de restaurants et de cafés. On n'a jamais demandé leur avis aux salariés.
Tu penses que pour la Syrie aussi, on va leur donner la parole?
Sûrement. Quand on va parler des migrants.
Qu'est-ce que vous pensez de Mayotte?
Justement, le samedi dernier, vous étiez sur la marche des solidarités. Vous avez distribué des tracts. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé.
Pour la marche de solidarité, c'était très facile. Nous, quand on a créé notre premier tract, notre première revendication, c'était la régularisation immédiate de toutes et tous des camarades sans papier. On a imprimé notre tract et notre première manif, c'était une manif de sans papier. On arrive, on commence à tracter et c'est là que la marche de solidarité nous contacte. Et très vite, elle nous invite chez eux pour parler lors de réunions hebdomadaires. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est tous les lundis de 19h à 21h à la Bourse du Travail. La première s'est faite dans un Burger King, mais ça, c'est pas l'histoire. C'était un jour férié, on peut comprendre. Mais très vite, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble, qu'on pouvait faire des choses ensemble. Ils nous ont invités à leur AG d'organisation de la manifestation de samedi dernier du 14 décembre à l'occasion de la journée internationale des migrants et des migrantes. Et on commence à travailler ensemble. On est presque présent, on essaie en tout cas d'être présent à toutes leurs luttes et ils nous le rendent bien.
Intéressant quand même, hein, justement, de mettre ça tout de suite en avant, parce qu'en général, c'est dans les syndicats, c'est en bas, c'est à la fin. Et là, vous décidez effectivement de le mettre au début. Et ça, vraiment, parce qu'effectivement, on l'a dit plus haut, mais c'est vrai que la présence des travailleurs sans papier est massive dans ce secteur. Cette manifestation, justement, comment vous l'avez vue et qu'est-ce que ça pourrait donner comme perspective ?
Alors, pour la manifestation, déjà, on peut parler un peu de la manifestation, ça s'est très bien passé. Ça reste quand même une manifestation de sans-papiers où il n'y a que des sans-papiers. Il n'y a pas eu d'autres organisations qui s'est déplacée pour l'occasion, il n'y a pas eu d'autres métiers qui se sont déplacés pour l'organisation, pour la manifestation, alors qu'on aurait pu voir, par exemple, je ne sais pas moi, les syndicats ou les organisations d'éducation qui pourraient soutenir les mineurs isolés, qu'on pourrait voir les travailleurs de la santé pour être contre la suppression de l'AME pour les étrangers. Mais Malheureusement, comme dans toutes les manifestations de sans-papiers, je leur dis, il n'y a que des sans-papiers. Mmh. Maintenant, il y a un cadre qui se crée, notamment avec la CGT, la LDH, pour créer un truc plus global.
D'accord.
Ça, ça commence un peu à faire, à créer des choses, notamment aujourd'hui, à 18h30, il y a un meeting. Oui. À l'occasion encore de la Journée internationale des migrants et des migrantes, je ne sais pas si vous êtes disponible, mais passez, ça va être salle ENAF.
C'est la salle ENAF.
Ouais, à la Bourse du Travail.
Ouais. Bourse du Travail, rue du Temple.
18h30.
18h30, début de meeting.
Et Métro République. Voilà, pour donner l'information complète. Voilà. Hein, voilà, on est un peu comme ça ici. Hein, voilà, on donne les informations complètes.
Mais il y a toute l'info, mais ouais, pour rebondir sur. Sur ce que disait Sharaf, pour nous, ça nous paraissait absolument primordial. Bah, déjà, comme on l'a dit moult fois, à cause de la situation spécifique de notre milieu, mais aussi parce qu'on voit bien comment la situation est en train de se durcir pour les sans-papiers, pour les personnes étrangères, pour les personnes migrantes. Et c'est hyper inquiétant, en fait. Déjà, c'est hyper inquiétant parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui sont concernées en France et qui voient leurs conditions de vie se dégrader et potentiellement jusqu'à un point de non-retour. Tour, et aussi parce que c'est clairement des signes avant-coureurs, voire maintenant coureurs, de la fascisation aussi qui est en train de s'opérer dans les sphères politiques et dans la société actuellement, et c'est hyper dangereux. Et bien sûr que, en fait, le gouvernement et les forces politiques en place, elles essayent d'abord de s'attaquer aux sans-papiers, aux personnes étrangères qui sont pas organisées pour défendre leurs droits, parce qu'elles sont déjà dans une optique de survie, en fait, au quotidien. Mais en fait, quand on s'attaque d'abord aux droits des sans-papiers, enfin, quand on s'attaque aux droits de quelqu'un, en fait, c'est le droit de tous les travailleurs et puis de tous les citoyens, en fait, qu'on est en train de détruire. Mmh. Et si on défend pas ça tout de suite...
Derrière, ça s'étend, quoi.
Exactement.
Madeleine.
Non, mais c'était effectivement pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, en fait, Sol, qui est que évidemment, on est au courant qu'il y a une volonté de diviser aussi ce monde du travail et de mettre les gens en concurrence les uns vis-à-vis des autres, notamment dans les travails qui peuvent sembler de plus en plus précarisés. Et en fait, effectivement, là, on se dit que de travailler d'abord à une forme de convergence en remettant l'église au milieu du village, c'est-à-dire en rappelant qu'effectivement, il y a des exploiteurs et il y a des exploités, il y a des gens qui sont patrons et il y a des gens qui sont travailleurs. Et donc, en réalité, là, on ne pourra pas se passer d'une union forte et radicale du monde du travail au vu de la situation dans laquelle on se trouve. Et en fait, travailler à l'unité et à renforcer nos rangs, c'est peut-être le meilleur outil qu'on a pour ensuite mener les batailles qui vont se présenter à nous dans l'avenir et qui vont être sûrement très nombreuses.
C'est clair, et c'est aussi, ça nous fait rebondir sur aussi le fait que nous, on est un collectif. Alors, on a dit collectif de défense et de lutte syndicale. On n'est pas officiellement un syndicat pour des raisons de fonctionnement administratif. Pour l'instant, on ne sait pas quelle forme prendre pour que ça fonctionne dans la grande maison de la CGT qui est un peu qui arrive comme ça avec un peu la lourdeur de beaucoup d'années de lutte. Mais aussi en rencontrant les collectifs de sans-papiers, en fait, on a senti beaucoup de méfiance et tout à fait légitime et justifié envers les forces syndicales, aussi parce qu'ils nous ont dit, en fait, les syndicats et la CGT notamment, même si on les embrasse et qu'on reconnaît tout ce qu'ils nous apportent, ils ont un positionnement sur les sans-papiers qui est de dire, nous, on défend les travailleurs.
C'est ça.
Fait, nous, notre enjeu, il va pas que là. On a choisi la forme...
Plutôt, oui, un côté fonctionnalité, quoi. Un truc qui doit faire marcher l'économie, quoi.
C'est ça. Donc, il y a encore une espèce de valorisation de la valeur travail comme quelque chose qui est un peu supérieur à moralement, quoi, à quelque chose de l'ordre des droits fondamentaux de l'existence. Et du coup, peut-être que c'est juste un choix stratégique, mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore si pertinent que ça, vu comment nous, on a envie de s'organiser et comment nous, on s'organise et comment les collectifs de sans-papiers s'organisent. Et nous, on a choisi la forme d'un syndical parce que ça nous paraissait pertinent, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis une syndicaliste convaincue au fond de mon âme. Je pense que c'est que vu comment le travail prend de la place aujourd'hui et comment il nous définit aujourd'hui dans la société, c'est trop pertinent et c'est des endroits trop forts de pouvoir s'organiser dans nos lieux de travail à partir de nos conditions matérielles de travail qui conditionnent nos conditions matérielles d'existence. Et c'est par là, en fait, qu'on va pouvoir faire le lien avec à la fois des luttes qui sont très précises dans j'ai besoin d'aide à un instant T dans mon travail pour survivre à ma semaine, et des choses qui sont de l'ordre de construire un projet de société globale sur l'ensemble. Mais en fait, pour nous, ça fait pas sens de séparer comme ça et de dire on est que les gens qui travaillent et pas les autres, quoi.
Alors on arrive en fin d'émission, on va parler des perspectives et comment on peut vous joindre justement, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être de ce secteur qui nous écoutent et qui voudraient bien aussi vous rejoindre. Donc commençons par les perspectives et ensuite comment on peut vous joindre.
Je sais pas si tu as des trucs sur les perspectives, Sharaf, parce que je fais que parler depuis tout à l'heure.
Alors pour l'instant on est encore en organisation, donc si vous nous rejoignez, bah, organisons entre nous, parce que je sais pas de mon côté, mais on a tellement fait de choses différentes ces derniers temps qu'on commence un peu à s'éparpiller et qu'on devrait commencer à concentrer nos forces. Maintenant, pour les perspectives, moi, je suis en train de broder, je ne sais pas quoi dire en vrai.
Non, mais oui, on n'a pas de date concrète à donner sur la prochaine action qu'on fait, parce que pour l'instant, on sort d'un gros mois de novembre-décembre où on a été un peu partout à la fois, surtout Sharaf. Mais par contre, effectivement, nous, le collectif tient, il fait des réunions toutes les deux semaines pour s'organiser, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La prochaine d'ailleurs, c'est vendredi.
Où ça?
C'est vendredi, je ne donne pas toutes les infos pour que vous puissiez d'abord nous contacter.
D'accord, voilà.
Parce qu'on a déjà eu on a déjà eu une journaliste qui est arrivée en plein milieu de notre réunion d'organisation de France Télévisions, donc on a été un peu échaudé et on a décidé de fonctionner un peu différemment sur les infos, mais ce sera vendredi à 14h30. Et du coup, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, à nous contacter soit par mail, donc collectifmep.paris@proton.me. Donc vous pouvez nous contacter, que ce soit pour la réunion ou pour la suite, on a toujours notre adresse mail. Et après, n'hésitez pas à passer aussi à nous suivre sur les réseaux pour avoir nos actus, et vous pouvez aussi carrément nous contacter par là, donc que ça soit sur Twitter ou sur Instagram, c'est @mepcollectif.
Bah, je crois qu'on a, l'émission va se refermer. Voilà, on va faire la vaisselle. Voilà, on va refermer la cuisine. Voilà, l'émission va se terminer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans notre émission, parce qu'aujourd'hui, donc, nous parlions de la présentation. On parlait de la mise en place du collectif Mise en Place. En tout cas, merci beaucoup. On aura l'occasion de se revoir. Merci aussi à Madeleine au micro et à la technique. Merci aussi aux mystérieuses personnes qui est aussi à la technique.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci en tout cas. Et nous, on vous retrouve pour une prochaine émission de l'actualité des luttes et on vous souhaite une très bonne journée. Salut.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.